Bonjour Nicolas. Les premiers sujets de ce journal, Natacha, une étude publiée dans Nature, une étude massive sur le génome du cancer.
Et il s'agit du Pan Cancer Project, la plus grande étude réalisée jusqu'à ce jour sur l'ensemble du génome du cancer. Jusqu'à présent, le séquençage des tumeurs était concentré sur l'exome, qui n'est que la partie codante de l'ADN et qui ne représente que 1% du génome. Pendant 10 ans, plus de 1300 chercheurs de 37 pays ont été mobilisés. Ils ont analysé plus de 2600 génomes de 38 types tumoraux différents et les ont comparé à des tissus sains. Il y a une foule de nouvelles découvertes dans ce dossier. Les chercheurs ont notamment mis en évidence un nombre important de mutations pilotes présentes dans les cellules tumorales. Des mutations pilotes qui poussent les cellules à se reproduire de manière incontrôlable. Ce travail offre des possibilités immenses sur la compréhension des cancers et sur des traitements potentiels. Maya Gutiérrez est oncologue à l'Institut Curie à Paris.
Non seulement le génome de chaque cancer est unique, mais ils en parlent justement dans cette analyse, c'est que au sein même d'une tumeur, on va avoir donc des cellules qui sont à des stades de mutation différents. Et donc, ils ont pu reconstituer aussi également l'historique des mutations, c'est-à-dire en se basant sur des algorithmes, pouvoir se rendre compte quelles étaient les mutations pilotes et aller comme ça jusqu'à des mutations plus tardives. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des mutations qui sont très précoces, qui vont survenir dans des cellules des années avant la découverte d'un cancer et qui pourraient être accessibles à des méthodes de prévention ou de dépistage, et des mutations qui vont être beaucoup plus tardives et associées donc plutôt aux récidives ou aux rechutants. Il y a des mécanismes qui sont communs à la cancérogénèse, mais il y a des choses aussi qui sont assez spécifiques. Et c'est vrai que c'est un petit peu les deux aspects qu'on a dans l'article. Par exemple, il parle beaucoup de l'immortalité des cellules tumorales. Et là, il y a toute une partie du travail qui concerne les anomalies qui vont aboutir à la persistance des télomères. Les télomères, qui est un signe de jeunesse dans les cellules. Quand on est, on a des télomères qui sont longs et qui vont se raccourcir au cours de l'existence. Et en fait, les cellules tumorales gardent des télomères très longs. Et là-dessus, on voit que dans différents types de cellules tumorales, on garde ce mécanisme d'immortalité. Ça nous offre des possibilités de compréhension des cellules bien plus importantes, les cellules tumorales.
En bref, dans la revue Plus One, un squelette découvert dans des grottes submergées à Tulum, au Mexique, complexifie notre connaissance des premiers Américains.
Et un squelette et un crâne vieux de 9900 ans, d'une jeune femme baptisée Shan Hall III. Les mesures craniométriques montrent qu'elle ne ressemble pas aux autres paléo-indiens. Son crâne a été comparé à 452 crânes de l'Amérique du Nord, du Centre et du Sud, ainsi qu'aux autres crânes trouvés dans les grottes de Tulum. Est-ce une anomalie ou est-ce que la migration vers les Amériques a été beaucoup plus diversifiée qu'on ne le pense? Selon les auteurs de cette étude, les paléo-indiens des Amériques n'étaient pas un seul groupe homogène qui a voyagé du nord au sud des Amériques. Les chercheurs pensent qu'il y avait au moins deux groupes humains morphologiquement différents.
On poursuit avec le deuxième sujet de ce journal. Les éléments clés du vivant peuvent se former dans l'espace.
Ce sont les conclusions d'une expérience transdisciplinaire réalisée par une équipe française. Leurs travaux viennent de paraître dans la revue The Astrophysical Journal Letters. Et en laboratoire, le groupe a réussi à recréer les conditions physico-chimiques que l'on trouve dans la nébuleuse solaire. C'est-à-dire le nuage de gaz à partir duquel le système solaire s'est formé. On sait qu'il y a beaucoup de molécules organiques dans l'espace, mais ils viennent de prouver que la cytosine pouvait se former dans ces conditions. La cytosine, c'est l'une des 5 bases nucléiques qui servent de briques à l'ADN. Il reste dorénavant à prouver que l'adrénine, la guanine, la thymine et l'uracile, les 4 autres bases nucléiques, peuvent se former dans une nébuleuse. Pauline Poineau est enseignante-chercheuse à l'Institut de chimie des milieux des matériaux de Poitiers. Elle est la principale auteure de cette étude.
On a reproduit en laboratoire les poussières de glace qui sont formées au moment de la formation de la nébuleuse solaire, à savoir le système solaire. Et en fait, c'était la première fois qu'on met réellement en évidence que dans ces conditions physico-chimiques extrêmes, une base nucléique de l'ADN a pu se former. Ce qui probablement pourrait laisser entendre que finalement ces bases azotées de l'ADN ont pu se former, les autres aussi ont pu se former également dans ces conditions-là. Ce sont mes chercheurs au laboratoire PIM de l'Université de Marseille. Ils se servent d'un système assez particulier où ils envoient des gaz qui sont de l'ammoniac, de l'eau et du méthanol. Et en fait, ils bombardent ces gaz avec des radiations lumineuses et qui sont représentatives de celles en fait qu'on trouvait dans l'espace à ce moment-là. Donc en fait, en gros, ce sont des radiations extrêmement intenses qui sont envoyées sur ces gaz. Comme ça, ils arrivent à reproduire finalement une glace qui est constituée de molécules organiques potentiellement présentes au moment de la formation de la nébuleuse. Et parmi toutes ces réactions chimiques qui se développent, elles conduisent à la formation de tout un tas de molécules organiques différentes. Et donc, parmi ces molécules organiques, on a mis en évidence qu'il y avait les bases, une base en tout cas, de l'ADN. Prochaine étape, ce serait déjà d'essayer de voir si potentiellement les autres sont présentes. Et en fait, on a mis en évidence qu'il y avait des composés qui avaient à peu près la même structure que les autres bases de l'ADN, mais on a montré que ce n'étaient pas les bases. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire qu'en fait, on appelle ça des isomères, c'est-à-dire que ce sont des molécules qui ont des structures chimiques proches des bases de l'ADN, des autres bases, mais qui ne sont pas les bases de l'ADN. Donc maintenant, l'idée, c'est de savoir si on peut optimiser encore nos protocoles de chimie analytique pour essayer de voir si, en descendant plus bas en concentration, on ne détecte pas les quatre autres bases.
En bref, des champignons prospèrent sur les murs des réacteurs de Tchernobyl.
Et les parois sont couvertes de champignons noirs, aussi appelés champignons radiotrophes. En tout, les chercheurs ont observé près de 200 espèces différentes. Non seulement certains champignons supportent les niveaux de rayonnement, mais d'autres les absorbent franchement. Vraisemblablement, ils seraient chargés de mélanine, ce qui les protégerait des radiations. Certains d'entre eux dirigent leur spore vers la source de rayonnement comme s'ils cherchaient de la nourriture. Les chercheurs ne comprennent pas comment ils sont capables d'absorber de tels niveaux de radiation.
Et cette semaine, dans le journal des sciences, il a été question d'un vaccin contre le paludisme pour les femmes enceintes, d'hydrogène métallique, de la progression du cancer dans le monde et de la régénération des cellules pulmonaires, même après l'arrêt du tabac. Mais également dans l'actualité des sciences cette semaine, Natacha, en ultra bref.
En ultra bref, les dunes de sable interagissent entre elles. La dynamique des champs de dunes est mal étudiée. On les considérait jusqu'à présent comme des objets autonomes soumis aux forces de la nature. Des physiciens montrent que lorsqu'elles se déplacent, les dunes interagissent avec leurs voisines. Elles se rapprochent les unes des autres avant, finalement, de s'éloigner de plus en plus. De nouvelles images prouvent que les phoques gris sauvages applaudissent sous l'eau pour communiquer. D'authentiques applaudissements avec les nageoires avant pour produire un claque très bruyant. Ce sont les seuls mammifères marins qui ont cette aptitude. Comme pour les gorilles qui se frappent la poitrine, cet applaudissement est fait pour impressionner les mâles comme les femelles. Et enfin, pour ce qui est de la communication entre les pingouins, des chercheurs viennent de montrer que leurs vocalises suivent les mêmes règles linguistiques que le langage humain. Comme nous, les pingouins utilisent le plus souvent des sons brefs, et plus les vocalises sont longues, plus elles sont composées de syllabes courtes. C'est la première preuve qu'une espèce non primate suit ces règles linguistiques.
Et pour conclure, comme tous les vendredis, par la rubrique de sciences improbables, aujourd'hui, un cas médical rare décrit dans la revue Oral Surgery et Oral Medicine, ça commence déjà très très mal. Des poils poussent sur les gencives d'une femme.
Mais dans le jargon, on parle d'un hirsutisme gingival récurrent. En Italie, une jeune femme de 19 ans s'est présentée au médecin avec de petits poils qui ressemblent à des cils et qui poussent dans les gencives, hein, derrière ses dents de devant. Dans la littérature scientifique, on ne trouve que 5 autres cas similaires. Après différentes tentatives de traitements hormonaux, 7 ans plus tard, son état s'est aggravé. L'étude parle de poids, ou de cheveux d'ailleurs, qui poussent à peu près partout sur les tissus mous des gencives. Les docteurs n'expliquent pas du tout ce phénomène.
Merci beaucoup, Natacha. Et on vous retrouve lundi pour le prochain Journal des Sciences.